Tout de suite, c'est le journal d'Antoine Mercier. Bonjour Antoine.
Bonjour Olivia, bonjour à tous. Dernier jour de campagne, Marine Le Pen à Marseille, Emmanuel Macron à Nantes, Benoît Hamon, place de la République à Paris, François Fillon s'affiche aux côtés de son ancien rival Alain Juppé, visite de terrain aussi pour Jean-Luc Mélenchon dans le Jura, dernier développement avec Ludovic Piétenu, Sophie Delpont et Stéphane Robert. L'actualité à l'étranger, 6 mois après le début de la bataille pour la reconquête de Mossoul, l'inquiétude grandit pour les quelques 500 000 civils qui sont toujours présents dans les zones encore contrôlées par l'État islamique, précision de Nadine Epstein. Plusieurs dizaines de millions d'Indonésiens appelés aux urnes aujourd'hui pour des élections municipales et régionales, aux airs de prélude à la présidentielle qui aura lieu là-bas en 2019 à Jakarta. La campagne pour le poste de gouverneur s'est déroulée sur fond de tensions interreligieuses. Analyse de Nabila Hamel dans cette édition. Et puis l'ABCDR de la campagne, l'invité Henri de Castres, qui est ancien PDG d'AXA, soutien de François Fillon à la lettre L, comme liberté dans la dernière partie de la Grande Table. Olivia Jesvert.
Après Forbach et Lens, après l'Est et le Nord, dans l'œil des documentaristes, en première partie de l'émission, on poursuit notre réflexion et notre tour de France des territoires en compagnie de la journaliste Anne Niva, qui publie « Dans quelle France on vit ?» chez Fayard, et de l'économiste Laurent Davzy. Ils vont dialoguer ensemble. Quelle réponse des candidats à la fracture territoriale ? On en parle à partir de 12h55, Antoine.
Mercredi, jeudi, vendredi, plus que 3 jours de campagne et toujours cette même incertitude sur l'affiche du second tour. Campagne inédite, presque insaisissable, alors que par ailleurs l'intérêt est toujours aussi fort et grandit même manifestement dans l'opinion. L'annonce par le gouvernement hier de l'arrestation de 2 hommes soupçonnés de préparer un attentat imminent a finalement été assez peu commentée ce matin par les candidats. Ludovic Piétenu, avant de voir les autres événements de cette campagne, un mot là-dessus. C'est difficile de dire finalement quelle peut être l'impact électoral de cette annonce.
En effet, difficile sauf à renvoyer aux enseignements du précédent scrutin, les régionales de décembre 2015, dont le premier tour se tenait 3 semaines après la série d'attaques terroristes du 13 novembre. Les candidats avaient arrêté de faire campagne. Le FN avait enregistré une forte poussée dans plusieurs régions après ces attentats. Pour cette présidentielle, qui se déroule dans le cadre d'un état d'urgence prolongé, dans un contexte de menaces terroristes élevées, d'attentats déjoués régulièrement, tout ceci est devenu évidemment la principale source d'inquiétude des Français, mais rien à voir avec la délinquance, sujet majeur de la campagne présidentielle de 2002, il y a 15 ans. Les candidats à l'époque parlaient d'insécurité et les Français faisaient plus ou moins confiance aux uns et aux autres pour y apporter des solutions, même si nous étions, rappelons-le aussi, moins d'un an après les attentats du 11 septembre. Avec le terrorisme qui par principe frappe n'importe où, n'importe quand et n'importe qui, les Français ont un ressenti très différent par rapport à cette insécurité. Dans les sondages d'opinion, ils considèrent majoritairement que le politique ne peut pas grand-chose contre le terrorisme. Prenons ce très récent sondage IFOP pour 32% d'entre eux. Aucun des candidats à cette élection présidentielle n'a les épaules pour combattre ce mal. 31% d'entre eux placent ensuite Marine Le Pen, François Fillon et Emmanuel Macron arrivent ensuite, loin derrière, cités par 14% des sondés.
Ludovic Piétenu, merci. Alors pour ce qui est de la campagne elle-même maintenant, c'est donc la semaine des derniers grands meetings. Marine Le Pen sera à Marseille, Emmanuel Macron sera à Nantes, près de Nantes, et François Fillon va s'afficher à Paris aux côtés d'Alain Juppé. Hier à Toulouse, le candidat socialiste Benoît Hamon dénonçait l'OPA sur l'Élysée qui était conduite selon lui par Emmanuel Macron avec des moyens, dit-il, qui sont ceux d'un certain nombre de grands pouvoirs économiques derrière, des financiers, des stratégies marketing, un conseil d'administration, les méthodes d'une entreprise. Et pendant ce temps, à Dijon, eh bien Jean-Luc Mélenchon, lui, se disait prêt à gouverner la France. Il annonce que son futur gouvernement sera composé de ministres et de beaucoup de hauts commissaires qui seraient chargés de missions transversales. Il assure qu'il ne veut sortir ni de l'Europe ni de l'euro. Et il se dit sûr de pouvoir parvenir à négocier des modifications des traités, notamment avec les Allemands. Sophie Delpont, bonjour.
Bonjour.
Alors vous étiez hier soir à Dijon et Jean-Luc Mélenchon s'est véritablement assis hier soir sur ce fauteuil de président.
Et pour cela, le tribun a voulu rassurer sur sa capacité à gouverner. Car rassurer, c'est effectivement l'enjeu majeur pour le candidat de la France insoumise. S'il veut gagner encore les quelques points qui le séparent d'un potentiel second tour, convaincre les indécis encore nombreux en incarnant la figure du rassembleur de la gauche. Pour l'Europe, tout d'abord sur le fond, rien ne bouge. Le plan A consiste toujours à négocier la sortie de tous les traités, définir d'autres règles. En cas d'échec, c'est le plan B, la sortie unilatérale de l'Europe après référendum. Mais il a voulu insister hier en interpellant la foule par ces mots. Ne croyez pas ce qu'ils vous disent, ils veut sortir de l'Europe, de l'euro, un peu de sérieux. Il évoque des enjeux immenses et se dit certain de parvenir à un point d'accord dans la renégociation des traités avec l'Allemagne, qu'il qualifie de partenaire, ajoutant que dans un partenariat, on discute. Le sérieux aussi, il le revendique dans son programme en mettant en avant une tribune publiée hier et signée par plus d'une centaine d'économistes de 17 pays différents qui appellent à voter pour lui. À ceux qui s'inquiètent enfin d'une pagaille potentielle avec l'instauration d'une assemblée constituante, il répond qu'il y aura une forme de gouvernement avec des ministres pour les fonctions régaliennes effectivement et des hauts fonctionnaires, des hauts commissaires affectés à des missions précises. Pas de révolution permanente, précise le tribun, car Jean-Luc Mélenchon joue gros. Il a appelé hier encore une fois ses troupes à se mobiliser car il le sait, une poignée de voix fera la différence entre victoire et défaite.
Sophie Delpont, merci. Marine Le Pen compare ce matin Jean-Luc Mélenchon au Premier ministre grec Alexis Tsipras qui a dû accepter un plan de sauvetage financier du pays sous contrainte européenne. Le problème, dit Madame Le Pen, c'est que quand vous allez négocier, que vous ne faites pas le bras de fer, eh bien vous négociez à plat ventre. Fin de citation. De son côté, François Bayrou, soutien d'Emmanuel Macron, déclare qu'un second tour Mélenchon-Le Pen serait effrayant pour le pays, pour l'image du pays, pour son avenir, parce que les choix proposés sont extrêmement risqués. Jacques Cheminade, invité ce matin de France Info, et il a expliqué la singularité de sa démarche concernant notamment cette question de la sortie de l'euro. On l'écoute.
C'est important, mais ce n'est pas l'essentiel. L'essentiel, c'est de créer un système de crédit public national qui puisse financer l'économie et créer de l'emploi. Si on n'a pas ça, on ne crée plus de l'emploi, on n'a plus un sens, on n'a plus un chef d'orchestre. C'est simplement avoir un chef d'orchestre responsable. Je pense que ma candidature, pour aussi réduit que soit le vote affiché par les sondages, est très importante parce que je représente la possibilité, le catalyseur pour une alliance contre ce système financier, contre ce système bancaire qui a le pouvoir dans le monde. Et cette alliance doit être faite à l'intérieur de la France, on peut appeler ça une alliance pour le développement, entre les entrepreneurs et, d'autre part, bien sûr, les travailleurs indépendants, les travailleurs dans le privé et dans le public. Et cette alliance doit être constituée. Et je pense que tous les autres candidats ne pensent pas en termes de cette alliance, ils pensent en termes de couvrir un créneau, d'avoir des gens qui les soutiennent. C'est comme Mélenchon quand il dit « je ne sortirai pas de l'Europe, je ne sortirai pas de l'euro » parce qu'il pense que 68% des Français ont peur et ne le veulent pas. Donc il essaye d'aller après un électorat. Les autres, pareil. Hein. Il faut faire cette alliance, et cette alliance aussi dans le monde. Pour le développement dans le monde, dans laquelle on a amène les États-Unis et on amène tous les pays des BRICS.
Voilà, Jacques Cheminade. Donc ce matin sur France Info, bonjour Stéphane Robert.
Oui, bonjour Antoine.
Donc plus que 3 jours de campagne, je le disais, on pourrait ajouter finalement, heureusement, tant cette campagne est difficile à cerner pour les observateurs que nous sommes, ça contraste évidemment avec l'intérêt que tout le monde porte à cette campagne, manifeste donc la perception que nous offre cette fois, de vraies alternatives pour la campagne.
Oui, car on peut voir un décalage entre la manière dont nous, médias, rendons compte de cette campagne et la manière dont la vivent les électeurs potentiels de cette élection présidentielle. Ce matin, par exemple, les journaux, les radios, les télévisions, tout le monde titre sur la menace terroriste qui ressurgirait dans cette campagne avec les deux arrestations qui ont eu lieu hier à Marseille. Et beaucoup de confrères se demandent quel impact ça pourrait bien avoir sur le vote dimanche prochain. Eh bien, si vous allez sur le terrain, si vous discutez un peu avec les gens dans la rue, dans les meetings, comme hier soir à Lille, vous vous apercevrez que cette affaire-là n'intéresse que très moyennement, que très partiellement. Oui, bon, il y a eu 2 arrestations, mais ce n'est pas nouveau, la menace terroriste, on sait qu'elle est là. Et puis, il n'y a pas eu d'attentat. Bref, dans bien des cas, ça ne génère pas le quart d'un poil de frisson sur l'avant-bras de nos concitoyens. Et nous, on en fait des caisses, on se saisit de cet artefact très conjoncturel, signe vraisemblablement que nous sommes aussi perdus que les électeurs. Par comparaison, ce qui semble en train de se passer un peu partout dans les chaumières, c'est que les Français, jusqu'ici un peu privés de campagne, sont en train de s'approprier cette élection. Ils lisent les programmes, ils dissèquent ce que proposent les candidats, car ils ont le sentiment, dans l'incertitude ambiante qui au demeurant génère beaucoup d'inquiétude, que cette fois leur vote est important, que le monde autour est dangereux, que l'avenir est incertain, qu'il est à construire et qu'ils ont une responsabilité, qu'il ne faut pas faire n'importe quoi. Pour le dire autrement, les Français sont en train de faire le travail de fond qui a sans doute insuffisamment été relayé médiatiquement. D'ailleurs, un signe nous en est donné ce matin. L'enquête Ipsos Cevipof réalisée sur près de 20 000 personnes montre sur un intervalle de 2 semaines un bond de 6 points sur l'intention d'aller voter à cette élection. On est passé de 66% à 72%, ce qui, à travers le brouillard ambiant à travers lequel tous nous évoluons, a malgré tout quelque chose de rassurant.
Merci Stéphane. Robert, on salue l'invité de la dernière partie de la Grande Table, notre consoeur Anne Niva, qui sera invitée avec Laurent Davzy, qui publie donc chez Fayard un livre d'enquête qui s'intitule « Dans quelle France on vit ?» Donc vous êtes...
Bonjour.
Vous avez voulu sortir de votre bulle. finalement, vous avez des choses à nous éclairer dans le brouillard.
C'est-à-dire, je vis dans une bulle, tout simplement. Non, non, ça, vous éclairer sur le brouillard, ça me sera difficile. Mais je pense que c'est le métier, l'essence même du journaliste, que de sortir de ce qu'on peut appeler sa bulle, oui. C'est-à-dire aller s'intéresser à l'existence des autres. Moi, j'écris pas sur la mienne, j'écris sur celle des autres. Alors, d'habitude, ce sont sur des pays en guerre qui sont touchés par le terrorisme depuis bien longtemps. Et puis, aujourd'hui, c'est en France, c'est à la France que je me suis intéressée.
Dans les villes moyennes, en général. Et donc, dites-nous quand même l'impression que vous avez retenue de façon générale qui pourrait s'intégrer dans l'actualité de cette fin de campagne. Qu'est-ce que vous avez ressenti principalement ?
Beaucoup de dégoût par rapport à nos hommes politiques, par rapport à leur manque d'exemplarité, qui semblait déjà évident à tous mes interlocuteurs bien avant les affaires, puisque j'ai commencé le travail pour ce livre il y a 2 ans. Mais en même temps, beaucoup de passion, beaucoup d'intérêt, beaucoup de curiosité vis-à-vis de cette chose politique qui va peut-être finir par avoir une fin avec ce premier tour et puis ce second tour. Mais je voudrais revenir à ce qui vient d'être dit sur le terrorisme. C'est-à-dire qu'on apprend hier qu'il y a eu un attentat déjoué. Et effectivement, ça n'a pas l'air d'émouvoir beaucoup. D'abord, ça n'émeut pas beaucoup parce qu'il a été déjoué. Donc, Dieu merci. Donc, finalement, on n'a pas grand-chose à dire. Mais moi, je crois surtout que... Je ne crois pas que ça n'intéresse pas les Français. Je crois que c'est tout simplement... Ça n'a pas été débattu du tout. C'est-à-dire, vous souvenez qu'au cours des débats, nos hommes politiques ne se sont pas emparés de ce sujet. C'est peut-être ça.
Ouais, comme si, effectivement, les hommes politiques ne se sont pas emparés, peut-être, des gros sujets ou
des grosses préoccupations.
Anne Niva, merci beaucoup. On vous retrouve dans la dernière partie donc, de La Grande Table.
Midi 42 sur France Culture, la suite du journal d'Antoine Mercier. Dans l'actualité à l'étranger, 6 mois après le début de la bataille pour la reconquête de Mossoul, l'inquiétude grandit pour les 500 000 civils toujours présents dans les zones encore contrôlées par l'État islamique.
Et oui, cette offensive a été lancée le 17 octobre dernier, la bataille de Mossoul, qui a permis aux troupes gouvernementales de chasser en janvier les djihadistes de la partie est de leur dernier bastion irakien. Mais donc les combats se concentrent toujours maintenant sur, et depuis février, sur cette rive ouest du fleuve Tigre qui coupe la ville en deux. Il n'y a pas vraiment d'avancée décisive, Nadine Epstein.
Et oui, depuis la mi-octobre, la bataille de Mossoul a jeté sur les routes 500 000 femmes, hommes et enfants, et toujours selon l'ONU, 500 000 de personnes restent dans les quartiers de Mossoul, contrôlés par Daesh, qui après avoir été chassé par l'armée irakienne de la partie est de la ville, se bat maintenant depuis des semaines sur la rive ouest du fleuve Tigre. Selon la coordinatrice des Nations Unies, les combats en cours sur la rive ouest sont plus violents que ceux ayant abouti à la reconquête de la partie orientale le 24 janvier, ce qui peut expliquer la fuite des habitants. Mais elle tait le nombre de morts. Combien y a-t-il de victimes ? Des dizaines, des centaines, des milliers ? Aucun chiffre officiel n'est donné. La dernière estimation avancée, 70 tués après un bombardement. Les forces irakiennes, fortes de 30 000 hommes, de l'armée, de la police, du contre-terrorisme, avancent prudemment en raison de la complexité du terrain. Les civils sont utilisés comme boucliers humains par les djihadistes qui ont aussi déployé des dizaines de snipers dans la vieille ville, sniper contre sniper. Les Irakiens traquent les combattants de Daesh nuit et jour, explique un responsable qui assure fièrement que les tireurs embusqués abattent entre 3 et 5 djihadistes par jour. Ils sont épaulés par des soldats et l'aviation. Les frappes aériennes, les tirs des djihadistes et le mauvais temps, les fortes pluies, ont aussi causé beaucoup de dégâts, dont des ponts du Tigre qui traversent Mossoul. Enfin, à une 50aine de kilomètres au nord de la ville, des milliers de Yézidi, premier souffre-douleur de Daesh, ont bravé leur peur et sont réunis à Lalish pour fêter aujourd'hui leur nouvel an selon leur tradition.
Nadine Epstein.
Plusieurs dizaines de millions d'Indonésiens étaient appelés aux urnes aujourd'hui pour des élections municipales et régionales. Antoine Mercier aux airs de prélude à la présidentielle de 2019.
Et à Jakarta notamment, la campagne pour le poste de gouverneur s'est déroulée, on le sait, sur fond de tensions interreligieuses. Le gouverneur sortant est le premier homme d'origine chinoise, mais aussi le premier chrétien à avoir occupé ce poste. Il était accusé par certains groupes musulmans d'avoir insulté le Coran et il doit être d'ailleurs jugé pour blasphème. Selon les premières estimations, il est sur le point d'être défait donc à Jakarta par son rival musulman Nabila Amel.
Oui, au premier tour, le 15 février, celui que l'on appelle Ahok est pourtant arrivé en tête avec 43% des voix, soit 3 points de plus que son rival Agnès Baswedan. L'écart n'était pas très grand et la réserve de voix était relativement faible, surtout avec la campagne hostile menée contre lui par de puissantes organisations musulmanes. Bazuki Purnama, chrétien d'origine chinoise, vous le disiez, n'avait pas été élu pour son premier mandat, mais l'homme avait accédé automatiquement à cette fonction de gouverneur en tant qu'adjoint très populaire du gouverneur de l'époque, Joko Widodo, devenu depuis président. Cette fois, Aoki passe donc par le verdict des urnes. Le gouverneur sortant est apprécié pour ses réformes et pour toutes les actions destinées à désengorger Jakarta ou à lutter contre la corruption, notamment dans la fonction publique. Mais Aoki a eu une petite phrase en septembre dernier qui lui a valu les foudres des islamistes. Il affirmait en substance que l'interprétation d'un verset du Coran, faite par certains théologiens, et selon laquelle un musulman ne doit élire qu'un musulman, est erronée. Des manifestations géantes ont été organisées à la fin 2016. Il a également un procès pour blasphème sur le dos. L'ancien ministre de l'Éducation, arrivé lui en deuxième position, a du coup tenté d'accroître ses chances de succès en rencontrant des islamistes partisans d'une ligne dure. Cette stratégie nuira-t-elle au gouverneur sortant? Les résultats doivent tomber incessamment.
Merci beaucoup Nabila Hamel. Encore une information de l'étranger devant des soldats américains rassemblés sur le pont du porte-avions américain Ronald Reagan, qui est actuellement stationné au Japon. Le vice-président Mike Pence promet à la Corée du Nord ce matin une réponse écrasante en cas d'attaque. De gros nuages s'accumulent à l'horizon. C'est ce que déclare donc le numéro 2 de l'exécutif américain, qui qualifie Pyongyang de plus dangereuse et urgente menace dans la région. 12h47 et 30 secondes sur France Culture, c'est l'heure donc de la séquence interview. Henri de Castres, ancien PDG d'AXA, soutien de François Fillon. Nous ouvrons l'abécédaire de la campagne à la lettre L comme liberté. Et c'est vous, Stéphane Robert, qui commencez cette interview.
Bonjour Henri de Castres.
Bonjour.
L comme liberté, parce que c'est l'un des credos, si ce n'est le credo de François Fillon. Il a encore dit hier soir, lors de son dernier meeting de campagne à Lille, qu'elle devait être choisie, je cite, « en premier dans l'ordre de nos valeurs ». C'est également ce que vous pensez dans le triptyque « liberté, égalité, fraternité », ça doit être la première?
Oui, bien sûr, parce que sans liberté, les deux autres valeurs sont très difficiles à mettre en œuvre. La liberté, c'est un mot magnifique, c'est un des fondements de la République. C'est d'ailleurs pour ça que c'est dans la devise. Et c'est balancé dans notre démocratie par l'acceptation du fait majoritaire. Ce sont les deux choses qui fondent notre système et qui nous différencient d'un certain nombre de systèmes autour de nous. Vous avez parlé de quelques-uns d'entre eux depuis 10 minutes, qui ne respectent pas notre modèle, ne croient pas ou ne croient plus que nous soyons un modèle de succès. Cette liberté, nous sommes en train de réaliser à notre génération que ça n'est pas un acquis intangible, mais qu'il faut la défendre.
En quoi François Fillon la défend mieux que les autres?
François Fillon la défend fortement, la défend bien, parce que je crois qu'il en a compris toute la portée, c'est-à-dire que je crois qu'il a compris ce qu'étaient les menaces autour de nous qui pouvaient quelque part fragiliser cette liberté. Des choses qui m'a frappé dans cette campagne, c'est qu'on n'a pas beaucoup parlé de l'évolution du monde autour de nous, de ce qui s'est passé un peu aux États-Unis bien sûr, mais de ce qui se passe en Corée du Nord, de ce qui s'est passé en Turquie. On voit bien que la liberté est une valeur qui a besoin d'être défendue. Il a été le premier à le dire. On voit aussi que quand on regarde ce que sont les sujets de notre pays, une des raisons pour lesquelles nous avons moins de croissance que d'autres, plus de chômage, c'est parce que la liberté d'entreprendre, la liberté de faire, la liberté d'agir est plus contrainte qu'elle ne l'est chez un certain nombre de nos voisins. Et c'est ce qu'il veut faire, c'est nous libérer d'un certain nombre de ces contraintes, ce qui nous permettra de retrouver le chemin de la croissance.
Comme Emmanuel Macron.
Oui, mais Emmanuel Macron, qui, sur le plan personnel, est un garçon sympathique, n'a ni l'expérience, ni le programme, ni la majorité pour mener ce combat. Et c'est un combat qu'il faut que nous menions, parce que quand nous regardons autour de nous en Europe, nous avons pris du retard par rapport à nos voisins. Et personne ne nous fera de cadeau, personne ne nous attendra. J'entendais parler tout à l'heure de l'idée de négocier avec les Allemands. Il n'y a pas que les Allemands en Europe. Nous sommes encore 27. Il y a 25 pays en dehors de nous et des Allemands qui ont
combat,
envie de voir la France se réformer.
On ne peut pas sortir de ce combat que nous promettez, ce combat où il faut que les uns gagnent et que les autres perdent. Après tout, est-ce que la France ne va pas retrouver une position indépendante?
Je ne crois pas qu'il faille toujours essayer d'opposer les uns aux autres. Mais quand on regarde le monde dans lequel nous vivons, quels sont les systèmes qui partagent nos valeurs? Ces valeurs d'attachement très profond à la liberté individuelle et ces valeurs de tolérance qui sont des valeurs d'acceptation du fait majoritaire, ce qui signifie que la minorité accepte la règle de la majorité. C'est-à-dire c'est le contraire du sectarisme, du communautarisme, du terrorisme. Hein. Quels sont les systèmes qui partagent ces valeurs? Il n'y en a pas tant que ça dans le monde. Parmi eux, parmi les systèmes qui partagent, il y a les démocraties européennes. L'Europe, ça n'est pas la source de nos problèmes, comme le disent certains, c'est la clé de nos solutions. Et nous avons besoin d'être européens, parce que nous nous défendrons mieux ensemble. Et pour que l'Europe fonctionne, nous avons besoin de réformer la France.
Alors, vous dites qu'à la fois, François Fillon veut défendre la liberté, nos libertés, et en même temps, il veut libérer nos énergies. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs libertés. Et est-ce qu'il y a des libertés plus importantes que les autres? Liberté de circulation, liberté de culte, d'opinion, liberté économique. C'est quoi le plus important?
Mais toutes les libertés se valent. Et vouloir laisser un espace d'expression plus fort à la liberté, c'est quelque chose d'essentiel. Ensuite, il faut regarder quelles sont celles qui, en France, sont un peu plus contraintes d'une façon qui n'est pas nécessairement absolument indispensable. Et regarder notre réglementation, regarder notre bureaucratie. C'est-à-dire, il est de bon ton dans les conversations de salon ou de bistrot.
Enfin, il y a quand même eu 10 années de gouvernement de droite qu'on nous a promis des réformes administratives de simplification.
Mais des gouvernements de droite comme de gauche ont promis des réformes administratives sans jamais les mener jusqu'au bout. La dernière commission de simplification, c'est un gouvernement de gauche qui l'a mise en œuvre.
Sous le gouvernorat de M. Fillon, est-ce qu'il y a eu beaucoup de simplification?
Je pense que M. Fillon a l'immense avantage de reconnaître qu'un certain nombre des choses qu'il a faites lorsqu'il était au pouvoir ne sont pas allées assez loin ou n'étaient pas parfaites. Il le sait, je veux dire, il l'a vu, il a voyagé, il s'est entouré d'un certain nombre de gens qui viennent de la société civile, qui lui ont expliqué dans les campagnes, dans les villes moyennes, dans les villes, ce qu'était la difficulté d'entreprendre, ce qu'était la difficulté de faire des choses qui permettaient de créer de l'emploi et de la richesse.
C'est le sens de votre présence à ses côtés aussi. C'est le sens de votre présence à ses côtés aussi.
Oui, je veux dire, moi je me suis engagé pour une raison très simple, vous savez. Beaucoup de mes amis me disaient surtout, mais que t'es complètement fou d'aller te mettre là-dedans. Non, je pense que nos démocraties sont à un tournant. Et que si un certain nombre d'entre nous ne s'engagent pas pour se battre pour ces valeurs, pour ces acquis que nous avons reçus de nos parents, eh bien nous pourrons voir la démocratie s'affadir et disparaître. Regardez ce qui se passe aujourd'hui en Turquie. Moi j'ai connu la Turquie d'il y a 15 ans. Elle était pleine d'espoir. Regardez la Turquie d'aujourd'hui. Elle n'est pas si agréable que cela à regarder compte tenu de ce qui s'y passe. La démocratie, ça n'est pas quelque chose qui va se maintenir si nous ne nous donnons pas les moyens de la défendre. Ce que propose François Fillon, c'est de la défendre de façon simple, claire et décomplexée, en identifiant ceux qui partagent nos valeurs et notre système et ceux qui ne le partagent pas. Il faut dire les choses clairement. Il a dit la vérité. Cela fait apparaître que nous avons un certain nombre d'obstacles, d'inconvénients, de retards. Ayons le courage de les traiter et nous retrouverons un pays formidable.
Stéphane Robert, dernière question.
Vous disiez tout à l'heure qu'il y a des secteurs où il y a un peu trop de liberté, d'autres où il n'y en a pas assez. La liberté de la presse a été très critiquée à l'occasion de cette campagne par François Fillon en particulier, mais est-ce qu'elle bénéficie de trop de liberté selon vous?
Je ne fais pas partie de ceux qui diront que la presse bénéficie de trop de liberté. Ça n'est pas vrai. C'est-à-dire, la liberté de la presse, c'est un des éléments essentiels de la démocratie. Ce qu'on est en droit d'attendre comme citoyen en contrepartie de cela, c'est d'avoir une presse qui informe et qui essaye d'élever le débat et de mettre nos concitoyens en face de ce que sont les vrais enjeux. Parce que, vu, vous savez, de l'extérieur, quand on sait ce que sont les menaces qui nous entourent, il vaut mieux se concentrer sur les vrais enjeux que sur les anecdotes.
Henri de Castres, ça change quoi de faire une campagne électorale plutôt que d'être PDG d'une grande entreprise? C'est la même chose?
Non, pas non. Du tout, bien sûr. C'est deux exercices très différents, mais également passionnants, parce que aller à la rencontre de nos concitoyens, essayer de débattre, essayer de comprendre pourquoi un certain nombre de gens
c'est
ne sont pas nécessairement de votre avis.
C'est ça.
Non, parce que vous savez, les conseils d'administration, c'est pas toujours facile. Hein. Mais voilà, je trouve que ça fait partie du luxe merveilleux qui nous est offert dans une démocratie libérale. Et ça, il faut vraiment que nous comprenions les uns et les autres que nous devrons le défendre et que le monde a changé.
Et après, vous continuez à la politique? Après la campagne?
J'en sais rien. Je veux dire, je verrai ce que je fais, vous savez. La chance, quand on est libre comme moi, c'est qu'on peut faire d'assez multiples choses.
Merci
donc
en
on
tout
verra.
Cas d'être venu jusqu'à Merci. Ce studio Henri de Castres. Soutien donc de François Fillon. Demain, nous continuons notre série d'interviews de personnes soutien des différents candidats. Un temps généralement ensoleillé aujourd'hui avec des températures un peu fraîches qui vont de 8 à 19 degrés quand même cet après-midi. Édition réalisée avec Yacine Bouzard et le prochain journal est à 18h avec Bénédicte Robin.